Matière à penser, Dominique Rousset.
Et le mercredi soir, environnement, société, le monde qui émerge, le monde qui vient. Et ce soir, les vieux ont de l'avenir. C'est Serge Guérin qui le dit, sociologue, professeur au groupe INSEC. INSEC, groupe dans lequel il enseigne un master au directeur des établissements de santé. Serge Guérin, porteur d'une vision positive du vieillissement de la population, observée dans l'ensemble des pays développés et qui pourrait bien toucher d'ailleurs la planète entière. Observateur en France des transformations très profondes, des modes de vie des personnes, disons, de plus de 50 ans, issues du baby boom, conseille également auprès de collectivités et d'entreprises sur les questions liées à leurs emplois, à leur logement, à leurs loisirs et convaincu contre certaines idées en cours de l'avenir souriant des relations intergénérationnelles. Bonsoir Serge Guérin.
Mes hommages du soir.
Vous n'avez pas du tout l'âge des personnes dont vous parlez et des personnes dont vous vous occupez depuis déjà bien longtemps. Une longue pratique, une longue réflexion sur ce thème du vieillissement. Comment et par quelle voie êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce thème-là ?
Je n'ai pas l'âge, mais c'est vrai, c'est amusant. Au début, quand j'ai publié mes premiers bouquins, je crois que le premier livre, c'était en 2000, Le boom des seniors s'appelait. Je me souviens que les journalistes disaient, il est quand même très jeune pour s'intéresser à un sujet, virgule, qui finalement ne les intéressait pas. À force, comme ça fait un petit moment, je finis par prendre de l'âge. Et donc, je rejoins cette grande cohorte des seniors. Alors, pourquoi je m'y suis intéressé ? Pour deux raisons. D'abord, pour une raison, idéologique, presque culturelle. Je m'intéresse plus, à l'inverse du président Macron, d'une certaine manière, je m'intéresse plus au dernier de cordée qu'au premier de cordée. C'est-à-dire que pour moi, une société, elle est construite aussi avec ses fragilités. Et c'est ce qui lui donne du sens. Et donc, voilà, moi, par nature, par intérêt, j'étais plutôt branché sur ce domaine-là. Et puis, lorsque il m'a été demandé de faire une thèse, en fait, je disais, mais il y a un sujet, je suis étonné, dont on ne parle pas du tout. C'était donc en 95, ouais, donc ça date un peu. C'est un sujet dont on ne parle pas du tout. C'est la question que, quand on regarde les chiffres, on voit bien que, devant nous, on disait le vieillissement, quel terme on disait plus tard, j'ai parlé de séniorisation de la société, mais à l'époque c'était les personnes âgées, quoi, le boom des personnes âgées. Et j'étais très surpris que ce soit un angle mort absolu du débat politique, du débat économique, du débat social. Voilà, on n'en parlait jamais, et donc c'était un petit peu comme ça. Et puis j'ai fait ma thèse sur notre temps, et j'avais une blague à l'époque, donc en 95, qui marche toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'était, je disais, tu déjeunes avec le rédacteur en chef de Notre Temps, tout le monde s'en fout.
Notre Temps, c'est une revue des retraités, on va dire.
Absolument, ouais. C'était le premier magazine qui s'était créé en avril 68, donc ça date quand même. Je m'amusais d'ailleurs à dire qu'en mai 68, il n'a pas été publié. Et d'une certaine manière, les étudiants de mai 68, un jour, seront des lecteurs de Notre Temps. C'est ça aussi, voilà. Et donc, c'est-à-dire, ce magazine, j'ai pas d'intérêt, enfin, je suis pas actionnaire de ce magazine, mais ce magazine, on rencontre le rédacteur en chef de ce magazine, tout le monde s'en fout. Je rencontre, je sais pas, le rédacteur en chef des Inrocks. Oh là là, t'as vu le rédacteur en chef des Inrocks? Les Inrocks, c'est 15 000 exemplaires autour de la place de la Bastille, à Paris. c'est toujours la même chose. Notre Temps, c'est 1 million d'exemplaires, c'est 4 millions de lecteurs. Et donc, d'un côté, parce que c'est pas la mode, parce que c'est pas sexy, on s'en fout. C'est aussi intéressant les distorsions de regard médiatique entre quelque chose qui me concerne dans une sorte de proximité et des choses qui ne me concernent pas.
Voilà, déjà le sociologue qui s'exprime, et c'est vrai qu'il y a de multiples entrées hein, lorsque l'on veut parler d'une population plus âgée, économique, sociale, vous l'avez dit, politique, éthique aussi. On va
éthique,
parler
absolument.
de la bienveillance du fameux care, on pourra le traduire. Et une question que l'on vous pose assez souvent, j'imagine, qu'est-ce qu'être vieux ? Et également, sur la sémantique, pourquoi ce mot de vieux dérange-t-il ?
Alors c'est vrai, souvent les gens disent...
À quel âge est-on vieux d'ailleurs ?
Voilà, à quel âge est-on vieux ? C'est toujours la question. Et la réponse, on attend toujours d'une réponse que, surtout, je ne sois pas dans le coup. Je ne sois pas dans les vieux. Hein. Le vieux, c'est toujours l'autre. Le jeune, c'est moi. Ce qui veut dire d'ailleurs que, si je réponds en sociologie justement, finalement c'est pas l'âge, c'est l'âge que la société, que l'environnement, que ceux qui décident vous donnent. Par exemple, dans l'entreprise, je suis un vieux salarié,
dès 50 ans, même
pas
avant.
45 ans. Ouais. On a même eu une réforme qui a été mise en place par Laurent Wauquiez, qui est un garçon qui, un jeune politique, qui avait parlé d'entretien de mi-carrière à 45 ans. Du coup, les gens, quand ils ont reçu leur feuille d'invitation de convocation à un entretien de mi-carrière, pour certains, c'était quasiment recevoir un prospectus pour une convention obsèque, quoi. C'est-à-dire se dire, oh là là, ça sent le roussi pour moi. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, dans une entreprise privée, vous perdez votre emploi autour de la cinquantaine, vous avez quasiment aucune chance de le retrouver. Donc, être vieux, c'est d'abord le regard social porté sur vous par les autres.
Ça, c'est pour le regard de l'entreprise, pas de toute,
oui,
heureusement.
Oui, de toute la société, d'une certaine manière.
Oui.
Être vieux après, c'est soi-même, d'une certaine manière. Est-ce que je me sens vieux? C'est-à-dire, est-ce que finalement, je n'ai plus de projet, de curiosité ou d'espoir? Et on pourrait dire qu'après tout, être vieux, c'est aussi un rapport par rapport à mon espérance de vie. Et évidemment, comme l'espérance de vie a évolué, d'une certaine manière, je suis vieux plus tard, si c'est le terme qu'on veut utiliser, et qui est pas... Moi, j'avais fait un bouquin dans le temps qui s'appelait « Vive les vieux !» point d'exclamation. Et j'avais eu des courriers de gens en disant « Ah, enfin quelqu'un qui dit vieux !» Et d'autres, oh, c'est inadmissible, vous êtes un raciste, je vais porter plainte contre vous. Et alors, vieux, c'est quelque chose, mais vieille, c'est pire encore. C'est encore plus négatif d'une certaine manière.
Ouais. Et... Sondage Express, pris dans une revue spécialisée, justement, je ne sais pas si c'est Notre Temps ou une autre, je l'ai feuilleté. On demande à des gens dans la rue, hein. L'un, vieux, oh, c'est pas très beau à prononcer. Vieux, c'est la sagesse, c'est le vécu. Vieux, c'est quand on est dépendant. Et senior, parce qu'on va parler du mot senior, vous faites partie des défenseurs du terme senior. Senior, c'est du marketing, etc. Au fond, mal nommé, dites-vous, Serge Guérin, c'est prêté à la confusion.
Oui, je reprends une très belle formule d'Albert Camus, hein, mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde. C'est-à-dire que ça commence par là. Tout sujet, si on ne sait pas l'écrire, si on ne sait pas le nommer, on ne saura pas y répondre, d'une certaine manière. Et en effet, les termes, alors, on peut chercher les termes avec la Fondation Corian, on avait travaillé beaucoup, y compris avec les personnes concernées, et c'est, par exemple, pour les gens assez âgés, le terme qui passait le mieux, c'est aîné. Parce que l'aîné, je suis toujours l'aîné de quelqu'un.
Puis l'aîné transmet aussi. Peut-être.
Exactement. C'est-à-dire que jusqu'au dernier jour, j'ai, entre guillemets, une utilité sociale. Et ça, c'est un élément absolument majeur. Le terme senior, c'est vrai. Il a fait un long détour par les États-Unis, parce qu'en fait, ça, c'est un terme latin, quoi. Il est revenu en France. Alors, aux États-Unis, il y avait aussi la notion d'expérience, justement. Un senior dans l'entreprise, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. En France, il est devenu en effet un terme assez marketing, parce qu'on va préférer dire senior que personne âgée, ou des éléments comme ça. Mais il y a plein d'autres mots. Par exemple, dans la cosmétique, on va parler de mature, de peau mature. On dira pas une peau ridée. La peau mature, très mature, extra mature, ultra mature. Enfin, on peut faire peur comme ça. Donc c'est vrai que les mots, on voit bien qu'ils ont un sens et que ce qui est important, c'est que au lieu d'exclure, ils puissent permettre d'inclure. Aîné permet d'inclure et finalement, senior, d'une certaine façon, est un mot qui est relativement bien accepté parce que, bah voilà, j'ai une carte senior à la SNCF.
Il est dynamique.
Il est dynamique. Il est quand même.
Une carte senior, ça veut dire
oui,
que je bouge.
Avant, la SNCF avait créé la carte vermeille. Vous voyez, carte senior, c'est quand même plus sympa, quoi, voilà.
La perception de la société encore, la jeunesse est très souvent, c'est encore vous qui l'observez, associé au mouvement, à la nouveauté. Un retraité, on le qualifie d'inactif, ce qui vous fait bondir.
Oui, alors là, c'est parce que ça renvoie à plein de choses. Et là encore, on voit bien dans le débat actuel, les retraités doivent payer plus parce que finalement, ils sont un coût et puis ils servent à rien. D'abord, on a le droit de servir à rien, par ailleurs. Mais les retraités, il y a 17 millions de retraités aujourd'hui, ce sont les forces vives, par exemple, du tissu associatif. Vous n'auriez pas les bénévoles retraités, mais la moitié des associations s'écroule. C'est-à-dire que dire des gens qui sont inactifs, ça veut dire derrière, vous ne servez à rien. Or, on peut être actif autrement que dans l'emploi. Et d'une certaine manière, il y a certains mêmes inactifs qui sont parfois plus actifs que certains actifs. Il y a des gens qui sont bénévoles du matin au soir. Après, il faut voir aussi quelle est mon utilité sociale. Je peux travailler très très sérieusement, en étant très très bien payé, mais quelle est mon utilité sociale? Il y a des métiers dont on peut interroger l'utilité sociale. On n'interrogera pas l'utilité sociale de grands-parents qui vont chercher les enfants. On n'interrogera pas l'utilité sociale de personnes qui sont engagées dans le tissu associatif. On interrogera encore moins l'utilité sociale de gens qui vont accompagner un proche qui est en grande fragilité, par exemple par une maladie, par une perte d'autonomie, et ce qu'on appelle les aidants. Il y a 8 millions et demi d'aidants. Ces gens-là sont des, on parlera plus tard du care, mais sont le cœur du care, les acteurs premiers du care. Ben, la moitié de ces aidants, de ces 8 millions et demi d'aidants, sont des retraités.
Âgées voilà. Eux-mêmes. Donc, ouais.
Tout ça, voilà, il faut un petit peu, je crois, c'est, derrière, c'est pas juste un petit mot, c'est pas du folklore. C'est qu'on dit de quelle société on parle. Est-ce que c'est une société qui est seulement centrée sur le travail? Ah, et donc, il y a 6 millions de chômeurs, on fait quoi? Ou est-ce que c'est une société qui est centrée sur la notion d'activité? Dans le sondage, vous parliez du terme de dépendant. Là aussi, moi, je...
Oui, vieux, c'est être dépendant.
Bah oui,
ça a été dit.
Bah oui, mais le mot dépendant, il est d'une violence incroyable. On peut être dépendant à l'alcool, on peut être dépendant au tabac. Moi, je suis dépendant totalement du chocolat noir. Mais dépendant des vieux, ça veut dire quoi? On est tous interdépendants. On a tous, même le premier de cordée cher à Macron, Eh ben, il a besoin qu'il y ait une montagne, il a besoin qu'il y ait une corde. Hein. Donc, on est tous interdépendants. On a tous besoin les uns des autres. Certains plus à certains moments, c'est vrai. Mais le petit nourrisson, celui qui est le plus en besoin de l'autre, c'est bien lui. À la naissance, la femme qui accouche, elle a besoin qu'il y ait autour d'elle un personnel, des sages-femmes, des infirmières, ainsi de suite. Donc voilà, donc on est interdépendants. Et je trouve que les mots, là aussi, ils disent de quelle société on veut. Est-ce qu'on veut une société que des premiers de cordée, ou est-ce qu'on veut une société de l'interdépendance où chacun a sa place ?
Elle vous plaît, cette métaphore, décidément.
Ben, elle m'a un peu choqué, oui.
quand on est vieux, alors il y a quand même une réalité, c'est le monde d'aujourd'hui. Il est vrai que dans les années 80, par exemple, ça n'était pas un sujet, le vieillissement. Ça l'est devenu beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, pas si tard que ça d'ailleurs, c'est arrivé assez vite. Mais en tout cas, les plus de 60 ans, là on est sur des chiffres, la démographie, elle nous les donne, des plus de 60 ans qui représentaient 9 millions de personnes en 80, je parle de la France bien sûr, pour 15 millions aujourd'hui et plus de 22 millions attendus pour 2050. Autre chiffre frappant, et c'est bien pour cela que le sujet est si intéressant dans ce monde qui vient, les plus de 85 ans étaient 600 000 en 1980, ils seront 1 800 000, ils sont 1 800 000 aujourd'hui, et ils seront près de 5 millions en 2050. Quelle révolution, c'est bien cela, on n'en parlait pas dans les années 80.
Absolument, c'était un non-dit. J'ai même retrouvé des traces de discours expliquant par exemple à des anciens combattants, bien vous êtes les derniers, dans l'idée qu'il n'y aura pas de gens de 80 ans après. Et les gens qui ont 80 ans aujourd'hui, ne savaient pas qu'ils auraient cet âge-là. Et en fait, la société n'est pas du tout prête, était pas du tout prête. Les gens qui ont 60 ans aujourd'hui, ils voient leurs parents. Donc ils savent que demain, ils auront 85 ans, 90 ans. Mais à ce moment-là, c'était totalement invisible. Il y a un rapport célèbre où on parlait même à une époque de tsunami gériatrique. Parce que justement, c'est 600 000 personnes qui allaient passer à 5 millions en se disant, il va descendre des collines comme ça, des millions de vieux, vous voyez, en fauteuil roulant, la bave aux lèvres, se faisant pipi dessus, en déambulateur, que sais-je encore. Il y avait une vision comme ça, mais complètement dramatisante, en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et globalement, mais comment les repousser? Comment les cacher? Comment s'en séparer? Et ainsi de suite. Il y a une vision, soit un déni complète, soit une trouille absolue. Et les choses ont mis quand même du temps. Finalement, un des éléments qui a été marquant, ça a été la canicule de 2003. Il y a plus de 15 000 morts d'un coup. Et donc, il y a des gens qui disent, oulala, qu'est-ce qui se passe? On savait pas. Voilà. Et puis, après, il y a une révolution du volume. Jamais il y a eu autant, et jamais il y a aujourd'hui autant de gens âgés. Un chiffre tout bête, fin de 2015, pour la première fois dans l'histoire de France, le nombre de personnes de plus de 60 ans a dépassé le nombre de personnes de moins de 20 ans. Et ça, c'est en France. Mais d'ici à 2020, dans le monde entier, le nombre de personnes de plus de 65 ans dépassera le nombre de personnes de moins de 5 ans.
Donc c'est loin d'être le cas dans beaucoup de pays émergents, notamment pour l'instant.
Alors dans les pays,
mais ça vient quand même.
Oui, sur le continent africain, c'est là où il y a ce continent d'explosion de la jeunesse, mais de forme de jeunesse qui va être aussi un sacré sujet. Mais en même temps, ils ont aussi des gens qui commencent à vieillir. Donc comment on essaie... Ça c'est la première des révolutions. La deuxième, c'est celle de la longévité, qui est un mot d'ailleurs plus riche. On rentre dans une société de la longévité. On va vivre plus longtemps et tout le monde va vivre plus longtemps. Je reprends juste un chiffre. En 1950, vous aviez 350 centenaires. Aujourd'hui, vous en avez à peu près 21 000. D'ici à 2070, on en aura entre 250 000 et 550 000 centenaires.
C'est-à-dire que on parle toujours de la France. Hein.
On parle juste de la France. C'est-à-dire qu'avant, être centenaire, ça paraissait comme quelque chose d'incroyable. Vous faisiez la une du magazine, quoi. Vous faisiez la une du quotidien régional. Demain, eh bien, ça sera presque banal.
Toutes les familles auront 5 générations. Qu'on peut dire aussi, vous avez cité 2003, c'est vrai, cette canicule terrible. La création aussi en 2001 de l'allocation personnalisée à l'autonomie, l'APA, on s'en souvient sans doute. C'est pour montrer comment les politiques sociales, publiques, peuvent accompagner ces évolutions. Elle a marqué pour vous un changement très, très profond. Hein, la séniorisation, justement, de la société est devenue un fait.
Oui, tout à fait. Je fais un salut à Paulette Guinchard qui a porté cette réforme, qui était d'ailleurs une infirmière. Donc c'est aussi des politiques quand ils ont eu une vie.
Et qui a continué toute sa carrière ensuite à s'occuper du vieillissement.
Et qui s'est beaucoup, elle a présidé la CNSA jusqu'à il y a pas longtemps.
Exactement.
C'est une femme, voilà. Mais c'était l'idée de...
Guinchard-Kessner,
Paulette Guinchard, oui. C'est un sujet qui permettait justement de permettre d'accompagner le vieillissement, l'allongement de la vie et le maintien, le soutien à de l'autonomie. Alors après, il y a des problématiques économiques derrière lourdes, mais c'était la question de, eh ben voilà, ces personnes-là prennent de l'âge, comment elles peuvent continuer d'avoir une vie décente et d'être accompagnées par des professionnels. C'est-à-dire que derrière, c'est aussi comment on structure, on met en place aussi une économie du soin, une économie de l'accompagnement, et derrière, c'est aussi des centaines de milliers d'emplois.
Voilà, ce qui nous amène effectivement aux aspects économiques. Il y en a beaucoup d'autres, hein, on va en parler. Mais pour vous, c'est vraiment rajeunir le regard, hein, une exigence, hein, que nous devons tous observer. Et l'avancée en âge est vraiment une opportunité économique, une aubaine aussi, sociale, sur le plan associatif, vous l'avez déjà mentionné. Alors, sur le plan économique, c'est la fameuse silver economy que l'on présente. On va parler aussi de l'emploi, j'aimerais bien qu'on en ait le temps. Mais la silver economy que l'on présente, au fond, c'était d'ailleurs la définition, hein, qui avait été donnée, comme une filière industrielle qui a été lancée
fin
2013, donc assez tard, qui représente un potentiel de près de 100 milliards d'euros, qui est appelé aussi souvent le marché des seniors. Et donc l'idée, c'est, il y a toute cette population aujourd'hui âgée qui a un pouvoir d'achat, donc c'est un peu cette idée du retraité riche, et qui il faut proposer des produits. Alors, c'est une réalité, et elle existe, on peut y revenir. Mais je voudrais m'arrêter sur ce que vous lisez surtout dans la senior economy, qui est vraiment une économie du vieillissement et qui concerne bien d'autres aspects. Les produits et les services, la domotique, l'habitat, la santé.
Oui, c'est-à-dire que...
Les deux vont ensemble, mais...
Les deux vont ensemble, exactement.
Bien sûr. Alors,
on peut avoir soit une vision en disant, bon, bah ok, il y a des opportunistes qui ont vu arriver un nouveau marché... Bon, très bien, on a le droit d'être opportuniste, ça fait partie de l'économie en global, donc pourquoi pas.
Avec la consommation, les voyages...
Voilà, c'est ça, et en les imaginant en effet que tout ce public-là serait des gens à un pouvoir d'achat incroyable qui leur permettrait de passer leur vie en croisière et à dépenser. Bon, c'est une vision un peu limitée, mais qui n'est pas inintéressante. Et ce qui est intéressant avec la silver economy, c'est que du coup, ça a permis de faire découvrir à des gens qu'il y avait un secteur. Bon, après tout, pourquoi pas. Et dans la silver economy, il y a plein de choses passionnantes. Parce que la silver economy, c'est aussi les maisons de retraite. Hein. C'est les services à la personne. C'est là d'ailleurs où il y a le plus d'emplois. Puis c'est là où il y a des besoins. Mais c'est aussi, alors évidemment, plein de choses autour de la technologie. Alors parfois, moi j'ai vu 40 fois le même projet. J'ai présidé en plus les trophées de la silver economy. Donc je voyais, mais il y avait, je sais plus de 200 propositions avec des choses parfois tout à fait intéressantes. Et parfois, oui, un peu des gens qui ont rarement vu une personne âgée et qui ont une idée technologique. Mais parfois, il y a vraiment, je pense à, hein, enfin, voilà, je vais pas donner des noms, mais voilà, il y a ça, parfois des projets,
des produits,
ou des idées,
donner, oui.
Ouais, qui sont vraiment super, qui permettent en effet de faciliter la vie des personnes. C'est génial. Une simple canne qui ne tombe pas, c'est tout bête. Ben oui, mais c'est pas bête du tout. Voilà, et c'est la silver economy. C'est parfois juste ce qu'on appelle souvent le design thinking, c'est-à-dire penser en voyant comment les gens en ont vraiment besoin. Donc il y a tout un mouvement qui s'est créé, qui est un mouvement extrêmement intéressant. Il y a ce qu'on appelle des gérontopoles aujourd'hui, il y a celui des Pays-Loire par exemple à Nantes, qui sont des structures où on va essayer de fédérer un petit peu l'ensemble des activités autour de ce secteur pour finalement améliorer la vie. Alors souvent on a une vision très techno, ça va permettre de supprimer des emplois et ça va permettre de répondre à des gens qui sont vraiment pas bien, qui sont en très forte fragilité. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation-là. Mais la majorité des seniors sont des gens qui vont bien. 93% des plus de 60 ans sont en forme, sont autonomes. Donc il faut savoir bien répondre à ceux qui sont les plus fragiles, disons 1 200 000 personnes à peu près, mais savoir aussi répondre à d'autres besoins. Et la silver economy, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut être aussi de l'innovation technologique comme sociale pour mieux accompagner des personnes qui peuvent avoir des besoins parfois très très simples. Ça peut être de l'adaptation des logements. Par exemple, tout simplement, passer d'une baignoire à une douche dans un logement, d'abord ça consomme moins d'eau, et par ailleurs, bah, ça permet à des personnes de plus facilement se laver. Donc par exemple, de pouvoir vivre chez elles de manière autonome plus longtemps. Donc il y a toute une économie, mais aussi une vision des choses qui peut être extrêmement intéressante avec la silver economy.
Oui, sur le plan ergonomique notamment.
Exactement, d'ailleurs c'est plein de corps de métier qui peuvent comme ça se mobiliser pour tout simplement faciliter la vie des gens.
Et ce que l'on voit pour la recherche, l'a dit, je pense à la télécommande de télévision, par exemple, qui aurait été créée, dit-on,
pour les personnes handicapées,
dont
mobilité,
chacun profite. Ouais. Vous dites la même chose, des produits proposés à la silver economy qui peuvent profiter à l'ensemble de la société.
Oui, c'est ça. Je prends une chose.
Aménagement urbain, ce genre
oui,
de choses.
On a regardé dans nos villes et nos campagnes, on a quasiment plus de bus avec des marches. Bah, c'était demandé d'ailleurs par le monde du handicap depuis très longtemps, mais quand les collectivités ont vu combien de personnes étaient concernées, bah, elles ont été poussées à le faire. Et aujourd'hui, qu'il n'y ait plus de marche pour prendre un bus, c'est très bien pour les personnes âgées, c'est très bien pour les personnes en situation de handicap, c'est très bien pour les personnes, et j'ai pas dit les femmes, qui ont un landau, c'est très bien pour les personnes qui ont un chariot de course, que sais-je encore, c'est très bien pour les enfants, enfin... Et les autres, enfin personne va faire une manifestation, remettez-nous des marches dans le bus. Ça permet en fin de compte à nous tous de vivre plus facilement. Quand il y a 3 secondes de plus sur le feu rouge, ça permet à plus de gens de traverser en sécurité. Bah, pour les enfants, c'est pas mal. Pour les personnes qui ont une poussette, c'est pas mal. Pour les personnes âgées, c'est pas mal, et ainsi de suite. Et peut-être que nous, on attend un petit peu plus longtemps. Ça permet aussi des circulations peut-être plus douces. Et finalement, c'est peut-être même mieux en termes de pollution. Vous vous rendez compte tout ce que ça fait évoluer?
Toi qui as un pied dans la tombe, fais gaffe où tu poses la main. Si elle glisse, si tu tombes sur une peau de vache, c'est pas malin. Jeunes femmes et vieux messieurs, si elles n'ont pas d'amour, quelle importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, de l'amour ils en ont pour deux. T'as plus un cheveu sur la tête, qu'est-ce que t'as besoin de te frapper? Tu reprendras du poil de la bête quand tu iras la décoiffer. Jeunes femmes et vieux messieurs, s'ils n'ont plus de cheveux, quelle importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, des cheveux elles en ont pour deux. Toi qui descends la rue Pigalle, à ton régime fais attention. Quand tu vas remonter au Arles, le fil de la soupe à l'oignon. Jeunes femmes et vieux messieurs, s'ils sont au régime, quelle importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, de l'appétit elles en ont pour deux. Mais avant de froisser ses dentelles, en la couchant sur le divan, faudra pour être bien avec elle, la coucher sur ton testament. Jeunes femmes et vieux messieurs, si elles sont fauchées, quelle importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, du pognon, ils en ont pour deux. Quand elle te dira qu'elle t'aime, fais bien attention à ton cœur. Si elle habite au quatrième et qu'il y a une panne d'ascenseur. Jeunes femmes et vieux messieurs, à cet âge ça n'a plus d'importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, ils peuvent attendre un jour.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
Avec Serge Guérin, qui est...
Il n'a pas de cheveux non plus. Hein.
Il n'a pas de cheveux, c'est vrai. Pas un seul. Qui est sociologue. Avec lui, nous allons parler des vieux. Les vieux ont de l'avenir, c'est notre titre. Et il le démontre. Serge Guérin, l'emploi des vieux. Donc, l'emploi de ceux qu'on considère comme vieux. Vous nous en avez parlé, ça peut être très très tôt pour certaines entreprises. Mais l'emploi n'est pas forcément dans de grandes entreprises, bien entendu, ou même... dans le monde ouvrier, il peut avoir mille formes dans l'associative, dans l'économie sociale et solidaire. Vous avez fait une allusion à la circulation douce, à l'environnement apaisé. De nouveaux emplois et de nouveaux échanges, y compris intergénérationnels, on va y venir avec une vision peut-être plus frugale et plus long terme, ça paraît paradoxal, de l'économie.
Oui, d'ailleurs, je m'amuse parfois à dire que le vieillissement, l'allongement de la vie... En fait, les vieux ont inventé le développement durable, puisqu'ils vivent plus longtemps. Hein, on est dans une société qui est fondée sur l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que j'ai tout intérêt à ce que le produit dure pas trop longtemps, parce que du coup, je vais le renouveler. Avec les êtres humains, on a un peu cette tentation aussi. Après tout, si on renouvelait plus souvent les gens, ils achèteraient plus de frigos et ainsi de suite, et donc l'économie fonctionnerait différemment. Et le vieillissement, d'une certaine façon, contrecarre ou conteste, se rebelle contre cette approche. Et les gens, souvent plus âgés, ont tendance aussi à avoir une consommation, peut-être aussi parce qu'ils sont marqués par une autre histoire, avoir une consommation plus attentive. Parfois, c'est des gens qui vont faire durer plus longtemps un certain nombre d'objets, aussi parfois parce qu'ils ont des problèmes économiques et que donc, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et la question de l'emploi, c'est une double question. C'est ce qui est extrêmement choquant aujourd'hui, c'est le nombre de personnes de plus de 50 ans qui sont au chômage. En 5 ans, la croissance a été de 50% quand même. C'est des gens qui restent très longtemps au chômage, et des gens qui, souvent d'ailleurs à Pôle emploi, on leur dit « mais c'est pas la peine de vous fatiguer, vous trouverez rien hein, ». C'est aussi très 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 violent. Et on met dehors les gens, on dit avec raison « il faut travailler plus longtemps pour l'équilibre du système des retraites », mais en même temps, on a tendance à pousser dehors et à ne pas recruter les gens dès 50 ans. Donc là, il y a une contradiction très forte et très violente. Et d'ailleurs, à peu près la moitié des personnes qui font valoir leur droit à la retraite n'étaient déjà plus en activité. Hein, donc il y a vraiment quelque chose de très dur. Et après, vous avez un deuxième, enfin vous avez plein d'autres sujets, mais le deuxième, c'est des gens qui vont essayer de trouver d'autres solutions. Parfois, les petites entreprises Parfois, travailler, je sais pas, moi j'étais comptable dans une grosse boîte et je vais être comptable pour 3 PME parce qu'elles n'ont pas besoin de moi à temps plein, mais en revanche, mon expertise peut les intéresser à tiers de temps. Donc des gens qui vont inventer des statuts.
Oui, il y a beaucoup d'expériences intéressantes, hein, soyons positifs. Ça,
bien sûr, bien sûr.
Que des...
oui, tout à fait.
Que alors, ceux dont on ne veut pas.
Parfois, elles sont, je vais me qualifier d'auto-entrepreneur ou je vais monter ma boîte, hein, donc avec des problématiques de protection sociale différentes, parce que je préfère être dans cette situation-là plutôt que attendre et de pas retrouver de l'emploi. Je vais monter ma propre activité. Enfin, voilà, il y a énormément de choses autour de ça. Il y a aussi du cumul emploi-retraite, parce que les retraites étant de plus en plus petites, il y a plein de gens qui sont obligés de travailler à côté. Il y a à peu près 600 000 personnes qui sont en cumul emploi-retraite. Il y a à peu près 1 million de personnes qui sont en auto-entrepreneurs. Et puis, il y a sans doute entre 1 million et 2 millions de personnes qui travaillent au noir. Donc, tout ça fait quand même voilà un élément. Et puis, à côté... Les gens pour qui la question des revenus n'est pas majeure, c'est le bénévolat, c'est le soutien à tel ou tel type d'activité. Et c'est vrai qu'on voit là, mais les jeunes peuvent connaître ça aussi, où enfin toutes les catégories sont en train d'avoir un regard un petit peu différent, parfois contraint et forcé, parfois avec désir, sur l'emploi salarié, ce qu'on appelle les slasheurs. Je fais plusieurs choses à la fois, j'en suis un, hein. C'est-à-dire que je peux être salarié, avoir mes propres activités, développer d'autres choses. Il y a des jeunes qui vont le faire, soit parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans une règle de salariat traditionnel, soit parce qu'ils n'ont pas le choix. Et vous avez des gens, c'est drôle, vous avez des gens âgés qui font exactement la même chose pour les mêmes raisons. Des gens qui disent, moi ça va, ça fait 30 ans que j'ai été salarié, j'ai envie de faire autre chose, ou j'aimerais bien être salarié mais je peux plus. Ou bien je suis salarié, mais à côté, j'ai bien compris que bientôt j'allais être mis dehors, donc je commence à développer des choses. Donc il y a comme ça une certaine... on voit bien que l'ensemble des générations vont un peu, sont obligées d'inventer d'autres formes d'activité.
Avec quelques bons exemples à prendre du côté, ce n'est pas surprenant, des pays du nord de l'Europe. La Suède, par exemple, le sujet d'actualité où la formation professionnelle est à tous les âges.
Absolument. C'est,
et le plus tard possible.
Alors ça, c'est extraordinaire. C'est les pays nordiques, et la Suède en particulier, il y a 20 ans, il y a 25 ans, aussi parce qu'ils ont un regard anthropologique différent sur l'âge. Hein, nos pays du Sud, l'âge, il doit être caché. On parlait des cheveux tout à l'heure. Les cheveux blancs sont quelque chose dont on parle beaucoup. Il faut pas avoir les cheveux blancs. Moi, j'ai trouvé une solution, mais sinon, l'autre, voilà. Mais dans les pays nordiques, avoir les cheveux blancs n'est pas un sujet. C'est pas un problème. Voilà. Et donc, l'âge n'est pas du tout le même problème. Ça fait 20 ans qu'en Suède, on forme les gens dans l'emploi. Mais à 60 ans, on peut continuer de former. Nous, après 45 ans, on divise par 4 le taux de formation. Donc, en effet, la meilleure façon de vieillir quelqu'un, c'est de ne pas le former. Parce que du coup, son savoir, lui, il connaît en effet l'obsolescence.
Beaucoup de sujets encore, Serge Guérin. Vous avez à plusieurs reprises mentionné jeunes et vieux. C'est un thème sur lequel vous venez de faire paraître un livre avec Pierre-Henri Tavoyau, qui est philosophe. Vous aimez bien travailler avec des géographes, Christophe Guilly, avec des philosophes, en l'occurrence Pierre-Henri Tavoyau. La guerre des générations aura-t-elle lieu? Vous posez la question, mais bien entendu, vous répondez non très très vite, avec même pas mal d'humour et d'ironie. Ça vous agace au fond, ça fait partie de... Qu'est-ce qu'on a inventé un peu cette idée d'un conflit possible entre générations? Vous le démentez. Et les sondages le démentent d'ailleurs, car si l'on demande aux Français ce qui les rend heureux, ils mettent la famille en premier.
Absolument, c'est assez intéressant. Alors c'est vrai que... Moi, j'aime bien en effet travailler avec des gens qui viennent d'autres disciplines parce qu'on partage des choses, comme j'aime bien travailler en essayant d'être le plus ancré dans le réel avec des acteurs de la société. Et moi-même, j'essaie de coproduire cette société. Et c'est vrai qu'avec Pierre-Henri, on était assez étonnés, même un peu énervés, que très souvent, on veuille comme ça revenir sur ce sujet. Il y a des mythes. Alors, on a un mix de la mixité sociale. Ah, ça, c'est très très bien. Surtout défendu par les gens qui ne la vivent pas d'ailleurs. La mixité culturelle, ah ça c'est extraordinaire, toutes les cultures doivent se mélanger. Moi je crois pas nécessairement au mélange, il faut que chacun ait aussi sa culture et ainsi de suite, mais là aussi défendu souvent par des gens qui ne vivent pas ce mélange des cultures qui est parfois un peu détonnant. Et sur l'intergénération c'était l'inverse. Ah non, les générations ça marche pas, parce que par exemple la technologie, les jeunes ils sont nés dans le digital, donc ils peuvent pas parler avec des gens âgés qui sont complètement dépassés par le digital. Quand on regarde la réalité, vous avez beaucoup de gens, pas tous bien sûr, vous avez beaucoup de gens de 60, 70, 80, 85, 90 ans qui utilisent leurs ordinateurs. Mais si je reste juste 2 secondes sur l'informatique, sur l'ordinateur, sur le numérique, en fin de compte, loin d'écarteler, ça a même permis parfois de rapprocher. Parce que je suis le petit-fils, à 3h du matin, j'envoie un message à ma grand-mère, je ne vais pas l'appeler à 3h du matin, mais je peux lui envoyer un mail ou un texto, et puis elle le lira, si elle veut, à 3h de l'après-midi. Je suis parti très loin pour faire des études ou pour le travail, je peux rester en lien avec mes proches, avec ma famille, ainsi de suite. Donc en fin de compte, il y a plus, je crois, de liens aujourd'hui qu'il y en avait hier. Aussi parce qu'hier, on disait, ah oui, mais hier, les familles vivaient tout ensemble. Ben oui, mais c'était pas toujours un lit de rose de vivre tout ensemble. Puis elles avaient pas choisi de vivre tous ensemble. Là, d'une certaine manière, il y a plus de choix, il y a plus de désir de vivre ensemble, parce que voilà, j'ai envie de vivre avec telle ou telle personne. En tout cas, j'ai envie de la rencontrer, j'ai envie d'échanger avec ma mère, ma grand-mère, que sais-je encore. Et puis il y a, s'il n'y avait pas avant, de la réciprocité. Avant, c'était toujours le maître d'apprentissage qui était plus âgé qui apprenait à l'apprenti. Et c'était comme ça. Aujourd'hui, le maître d'apprentissage, la personne plus âgée, plus expérimentée, peut apprendre des choses à un plus jeune. Mais elle ne sera pas non plus choquée qu'un plus jeune lui apprenne des choses. Par exemple, sur l'informatique. Mmh. Par exemple, sur le numérique. Mais j'avais rencontré, dans une série d'entretiens, une grand-mère qui me disait, mais moi, j'ai demandé à mon petit-fils, on a voulu, avec les copines, faire un voyage. Mon petit-fils avait fait des études dans cette ville. Du coup, c'est à lui que j'ai demandé, parce qu'il y était allé avant moi. Alors, le petit-fils lui a peut-être pas donné toutes ses bonnes adresses. J'en sais rien. La boîte de nuit lui a peut-être pas donné. Mais en tout cas, il lui a eu donné à tel endroit, on mange bien, c'est pas trop cher, ainsi de suite. Vous voyez, donc, il y a plus de réciprocité que sans doute jamais il y a eu. Et s'il y a de la réciprocité, il y a du respect des deux côtés, il y a la dignité des deux côtés. Et si moi, jeune, on me demande mon avis, j'écoute aussi mieux le plus âgé sur un autre sujet.
Vous citez beaucoup d'auteurs dans cet ouvrage avec Tavoyot. J'aime bien l'anecdote de Marcel Pagnol inaugurant, il était déjà très célèbre, inaugurant une école portant son nom, Marcel Pagnol, et disant « Je suis très fier d'inaugurer cette école qui porte le nom de mon père voilà. Et mon prénom ».
Voilà, c'est beau, cette notion. Moi, je suis vraiment convaincu, et encore plus dans cette société qui est quand même lourde, qui est quand même avec des affrontements, certains imaginent que ça puisse aller jusqu'à une guerre civile, que la question de la transmission, c'est où la transmission. Et on apprend d'où on vient, collectivement, et du coup on rentre, on participe d'un commun, ouais. On participe d'une nation, ou bien il n'y a pas de transmission et ça s'appelle la barbarie. C'est-à-dire que si on croit à chaque fois, c'est pour ça que je suis très gêné par le Nouveau Monde par exemple, comme si à chaque fois on devait faire table rase du passé, c'est une phrase dans l'international. Moi qui me dérange, parce qu'on ne fait pas table rase du passé, on est aussi les enfants du passé. Je crois que c'était Auguste Comte qui parlait, on est aussi les enfants des morts d'une certaine façon. Et c'est parce qu'il y a eu ces morts, c'est parce qu'il y a eu cette société-là qu'on est là aujourd'hui. Et pour construire notre avenir collectivement, avec y compris les plus jeunes, on a besoin aussi de la transmission portée par les plus âgés. C'est pour ça que, par exemple, j'avais beaucoup défendu qu'il y ait un service civique éducatif.
J'allais y venir.
Ah, pardon.
Mais c'est pas grave, allez-y, au contraire. C'était ma question suivante. Justement, vous faites le lien avec l'intergénérationnel en allant beaucoup plus loin, puisque vous proposez un service civique pour les vieux, en appui aux politiques éducatives. C'est-à-dire que vous avez envie de faire ce lien et vous allez même encore un pas de plus, puisque je sais plus quand c'était, mais vous avez proposé un ministère de l'allongement de la vie et de l'intergénération. C'est-à-dire, c'est la même chose. Vous souhaitez qu'il y ait vraiment un travail commun entre les générations. Et pour vous, ça, c'est un élément nouveau quand même, qu'on n'observait pas par les siècles passés, pour toutes les raisons qu'on a énumérées.
Oui, tout à fait. Et puis,
pour voir aux besoins de l'éducation, ce serait aussi l'éducation nationale, bien sûr.
C'est ça, c'est-à-dire que le ministre de l'Éducation a remis en place, parce que je crois que ça ne marchait pas très très bien, le système où les après-midi, il y avait des compléments et tout ça, on pourrait se dire, si on mobilisait plus des retraités volontaires, qui même dans certains cas pourraient être un petit peu rémunérés pour ceux qui sont dans les situations économiques les plus difficiles, on pourrait aussi faire que ces personnes-là viennent travailler avec les enfants, leur expliquer des choses et finalement leur montrer aussi l'utilité de ce qu'ils apprennent. Parce que souvent, genre, on se demande, mais pourquoi j'apprends ça, quoi? À quoi ça sert? Et eux, ils pourraient sans doute mieux montrer à quoi ça sert et puis faire aussi cette transmission, discuter, échanger, montrer aussi simplement comment était leur vie il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'avoir des personnes qui vont nous parler de la déportation, de la résistance ou que sais-je, parce que ces personnes-là ne sont plus vivantes. Voilà. Donc on ne demande pas des héros. On demande simplement des gens qui racontent que, moi, quand j'étais jeune, par exemple, les toilettes étaient au fond du jardin ou sur le palier. Parce qu'en 1950, il n'y avait que 20% des logements où il y avait des toilettes au sein du logement.
On parle du père de Pagnol, l'instituteur.
Et j'avais pas l'impression d'être dans la misère. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de téléphone portable. Et pourtant, on arrivait à draguer, on arrivait à se parler, on arrivait ainsi de suite. Ça montrait aussi que, on n'écrit pas une page blanche, quoi. Il y a eu plein de choses avant et peut-être la coécrire avec ses enfants ou avec ses jeunes. Et sans doute que, aux uns et aux autres, on donnerait sans doute plus de sens. Et puis, il y a besoin, parce que, en effet, aujourd'hui, il y a besoin de mieux accompagner énormément d'enfants, énormément de jeunes qui sont en galère scolaire, qui parfois sont en galère culturelle, ne savent plus dans quel monde ils sont, ont du mal à raccrocher les wagons, ont parfois même tendance à inventer des croyances qui sont complètement contraires à nos valeurs. Et tout ça permettrait peut-être de favoriser plus de commun entre nous, plus de partage et sans doute de construire peut-être un destin plus commun.
Mixité, donc, entre les générations, vous voyez, mixité, favoriser ce soutien, un soutien mutuel. Un autre thème, j'aimerais qu'on prenne le temps d'en parler, Serge Guérin, c'est ce que vous appelez l'éthique de la sollicitude. Et là, vous parlez de beaucoup de monde, vous avez déjà mentionné tous les aidants, hein, cette notion d'accompagnement. Alors, le fameux care, on peut le traduire, hein, accompagnement bienveillant, qui a un peu de mal quand même à se faire sa place dans la société française, semble-t-il, alors qu'on en parle déjà depuis pas mal de temps. Qui est bien installé dans d'autres pays et que vous souhaiteriez évidemment voir se développer.
Oui, j'avais écrit en 2010 un bouquin de l'État-providence à l'État accompagnant sur cette notion de care en disant l'État-providence, c'était quand même, on met beaucoup d'argent pour aider un certain nombre de gens. On va plus pouvoir continuer comme ça parce qu'il y a moins d'argent dans les caisses de l'État. Il y a de plus en plus de gens à aider et plus qu'à aider, à accompagner. C'est-à-dire que finalement, c'est comment toi qui es fragile, moi qui à ce moment-là vais mieux, et en tout cas sur ce sujet-là, je peux t'accompagner. Mais si on fait le chemin ensemble, moi j'apprends aussi. Et peut-être qu'à un autre moment, c'est toi qui vas m'apprendre. Et c'est comment je permets à ce que ces personnes-là conquièrent des formes d'autonomie. Vous savez, c'est la parabole que j'aime bien de où je te donne du poisson, où je t'apprends à pêcher, quoi. Si je te donne du poisson, finalement, tu vas rester toujours en inégalité avec moi. Je serai toujours en surplomb, c'est moi qui te donne. Si je t'apprends à pêcher, bah voilà, on est à égalité. Bah, c'est comment on permet à des personnes qui sont fragiles d'avoir la vie la plus autonome possible, avec les limites, si j'ai telle ou telle problématique, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit psychique, qu'elle soit physique, évidemment, j'aurais pas la même chose. Mais en tout cas, ça me permet de gagner comme ça des éléments. Et puis derrière, c'est comment on valorise aussi le care. Il est aussi né du fait de dire, souvent des femmes d'ailleurs, ces métiers-là sont très peu valorisés, très mal payés, et comme par hasard, souvent tenus par des femmes. Est-ce que derrière, il n'y a pas aussi une problématique de mieux valoriser,
tous
mieux
les aidants,
accompagner
hein. tous ceux les aidants ceux qui sont rémunérés, mal comme vous dites, ceux qui sont bénévoles, et les familles.
Et les familles, voilà.
Qui sont, comme vous dites, souvent des femmes.
Ouais, c'est vrai qu'il y a deux catégories, enfin, d'une certaine manière. Si on prend tous les aidants, il y a à peu près 14 millions de personnes qui sont concernées. 8 millions et demi d'aidants bénévoles, sans compter des enfants. Des moins de 15 ans qui parfois sont dans des situations où il y a juste une maman et tout ça, et qu'elle a des problèmes et tout ça. Et donc ça fait à peu près au moins 9 millions. Et puis 3, 4, 5 millions de personnes qui agissent, qui travaillent dans ce secteur-là. Et puis on pourrait certainement en rajouter d'autres
Mais
parce que l'enseignement est une autre forme.
Si l'on revient sous des formes très strictement économiques, c'est aussi un réservoir d'emploi là et de...
Ah oui,
c'est... Et de gains, tout simplement.
De gains, absolument. C'est-à-dire que quand moi je suis parfois un peu choqué quand on parle de... Ah oui, les emplois, il n'y en a pas et tout ça, quand on parle de revenus universels et autres, il y a... On a des besoins très importants, alors d'emplois de toutes sortes, peu qualifiés parfois. Hein, dans les services à la personne, par exemple, il y a des problématiques pour trouver les bonnes personnes, pour les former un minimum, pour les accompagner. Donc là, il y a une problématique de moyens et de valorisation de ces métiers. Et puis, il y a des problématiques d'accompagnement sur certains territoires qui sont plus pauvres que d'autres. Et c'est là où souvent, il y a le plus de personnes qui en ont besoin. Je pense en particulier aux territoires ruraux. Dont on parle trop peu, et sont là des endroits où il y a moins d'équipements parce que c'est compliqué, parce que la densité de personnes est moins forte, donc c'est plus onéreux de mettre en place des équipements. Et sans doute que là aussi on peut inventer des choses avec plus de mutualisation, avec des personnes qui pourraient faire plusieurs activités et ainsi de suite, et ça permet.
Ça existe déjà, vous avez quelques exemples un peu positifs à nous donner?
Ah, il y a plein de choses qui existent, c'est ça aussi qui est génial. Je prends un domaine, par exemple dans le domaine du soin, il y a une structure qui s'appelle Ipso Santé qui a inventé des systèmes avec des algorithmes, avec des éléments où les médecins perdent beaucoup moins de temps dans l'administratif. Ben, si les médecins multiplient par 3 leur temps de soins, parce qu'ils sont en fait ils sont pas faits pour remplir des feuilles de papier, eh bien on gagne plutôt que du numerus clausus, mais vous êtes beaucoup plus efficace, vous gagnez 3 fois plus de médecins. Si vous savez mieux partager entre ce que peut faire un médecin et ce que peut faire une infirmière. Du coup, là où il y a moins de médecins et où le médecin va pas faire 2 heures de route pour aller voir une personne, mais si en revanche il y a une infirmière qui est pas loin, qui va se connecter avec la personne, et puis le médecin sera à distance mais va pouvoir voir les problématiques, ça sera une autre manière encore d'y répondre. Quand des collectivités, des départements vont réfléchir à comment on mutualise mieux le service à la personne avec des EHPAD par exemple. Donc les EHPAD qui sont les maisons de retraite médicalisées, j'utilise un acronyme, voilà. Là aussi, on permet parfois des gains économiques, des gains de soins et d'une qualité de vie. Quand le monde HLM invente des solutions...
J'allais y venir, le logement social. Voilà.
Le logement social
très
est quand
important.
Même un lieu formidable pour créer de l'intergénération.
Quand, et il y a de l'expérimentation là-dedans.
Y a des... ouais. J'ai, juste pour le plaisir, j'ai parrainé une petite opération à Fontaine-Guérin. Donc je pouvais pas ne pas la parrainer, vous voyez, près d'Angers. Où ce sont des personnes qui vivent sur place et qui disent, nous, on veut pas que nos parents, nos grands-parents, des personnes âgées, quittent le village. Eh bien, ensemble, ils se sont mis, ils ont construit un système avec des maisons adaptées. Voilà. Et à tel autre endroit, ça va être une structure HLM qui va aider à créer un lieu collectif. Il y en avait un très beau à Rennes, par exemple, très sympa, à la résidence Simone de Beauvoir, où l'idée, c'était que des gens âgés, des gens jeunes, des gens handicapés et tout ça, puissent vivre ensemble, mais avec des services collectifs, mais avec un lieu de vie, ainsi de suite. C'est comment, en fin de compte, on organise des lieux plus adaptés. Vous avez des structures. Saint-Gobain, par exemple, a développé comme ça toute une proposition de magasins autour de magasins plus adaptés aux personnes, où je puisse aller chercher ma canne en question qui ne tombe pas, mais tel ou tel un système où je puisse vivre plus facilement dans une salle de bain qui soit bien aménagée. Que sais-je encore. Il y a plein de choses qui sont en train de se développer pour nous permettre à tous finalement de mieux vivre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je suis aussi partie d'un courant qui n'est pas un courant déterministe en sociologie, qui est un courant qui regarde la société comme elle bouge et qui se dit les gens ont moins confiance dans les grandes institutions. C'est vrai, on peut le regretter, parfois à tort ou à raison. Mais au lieu de dire oui, mais c'est dramatique et tout, il n'y a plus de collectivité, tout ça, c'est pas vrai. C'est aussi des gens qui réinventent des solidarités, mais des solidarités de proximité, des solidarités qui ont du sens entre elles. Elles s'organisent, les aidants s'organisent. Des gens qui sont dans le même village vont essayer de s'organiser. Des gens dans un quartier de la ville vont essayer de s'organiser.
Ce qui nous ramène à l'économie du partage.
Ce qui nous ramène à l'économie du partage.
Je rends un service
Exactement, et on échange. Une économie du commun, quoi. Toi, tu peux faire ça, mais moi, je peux faire ça. Je suis âgé, oui. J'ai peut-être un petit peu plus de problèmes de mobilité. Oui, mais je peux garder ta petite fille. Et toi, pendant ce temps-là, à un autre moment, tu me rendras tel ou tel service. Ou peut-être on fera ensemble de la cuisine et puis je t'apprendrai des recettes. Que sais-je encore. Il y a comme ça plein de choses qui se passent et qui font aussi que la société s'en sort. Les jardins partagés, c'est joli comme chose. C'est simplement, il y a un jardin et des gens de tous les âges vont venir s'occuper du jardin. C'est aussi une jolie manière pour que des gens plus âgés expliquent comment on faisait le jardinage avant. C'est aussi une jolie manière pour que les gens fassent des tomates de qualité et qu'elles n'utilisent pas des produits Monsanto ou que sais-je encore. C'est des moyens aussi pour que ça améliore mon pouvoir d'achat, parce que ces tomates-là, je ne vais pas les acheter. Ça, je fais de l'activité physique, vous voyez, je gagne plein de choses en même temps, ça crée du lien. Et aujourd'hui, à peu près 20% des fruits et légumes qui échappent au marché. C'est bien parce que les gens, ils inventent d'autres solutions dans une société plus paupérisée, plus frugal, mais qui peut être frugal dans un sens positif. Il peut être négatif si j'ai pas de moyens, mais il peut être aussi positif si j'en invente aussi une autre société.
Est-ce qu'il vous arrive, Serge Guérin, que l'on vous dit que vous tenez un discours très sympathique, mais angélique ? Est-ce que vous croyez que tout ce que vous êtes en train de nous raconter, toutes ces expériences positives ont vocation à vraiment s'étendre dans ce monde-là ?
Alors souvent, quand on me dit ça, je propose un bon chocolat noir pour qu'on puisse se détendre et qu'on puisse discuter des choses.
Je n'ai pas précisé que vous êtes un grand spécialiste du chocolat. Vous avez également écrit sur le chocolat.
Oui,
c'est
vrai.
Il y a le rapport, mais c'est comme ça.
Si, il y a le rapport du plaisir. C'est-à-dire que, après tout, partager...
Mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai déjà.
Oui, je trouve que... D'ailleurs, on dit portage des repas. Moi, je préfère le partage des repas. Parce que le lieu... que ce soit du chocolat ou autre chose, le lieu de déguster ensemble, c'est aussi partager. Et c'est comment on construit une société qui, en effet, partage plus de choses parce qu'elle y a intérêt. Et oui, je suis angélique, c'est vrai. Mais quand je prends mes 8 millions et demi d'aidants, je les ai pas inventés, c'est pas moi qui les ai inventés. Ils sont là. Quand il y a 8 millions et demi de personnes qui, tous les jours, 20 heures par semaine, parfois c'est 20 heures par jour dans certains cas, vont accompagner un proche, souvent de la famille, mais dans 18% des cas, c'est un voisin, c'est un ami. Et ces personnes-là n'attendent pas parce qu'il n'y a pas les moyens de l'État pour le faire. Et sans doute qu'il est impossible de les avoir. Eh bien, si on payait ces personnes, c'est 164 milliards d'euros qu'il faudrait mettre sur la table. On n'a pas les moyens. Donc je suis angélique, oui, mais en même temps, je vous propose 164 milliards d'euros d'économie. Et comment, du coup, quand on a conscience de ça, on accompagne, on aide. Dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement, on a mis pour la première fois une reconnaissance des aidants. Oui, je suis angélique, oui, je suis forme d'optimisme, mais un optimiste de la volonté, comme dirait l'autre. Et derrière, il faut essayer parce qu'on y a tout intérêt.
C'est dit. Merci infiniment, Serge Guérin, d'être venu nous trouver ce soir. dans Matière à penser, Serge Guérin, donc sociologue, beaucoup, beaucoup d'ouvrages sur tous les thèmes qu'il vient d'aborder. Le tout dernier, j'y insiste un petit peu, en plus, comme je l'ai dit, il est assez plaisant et amusant à lire. Serge Guérin, Pierre-Henri Tavoyau, enfin Pierre-Henri Tavoyau qui est philosophe. La guerre des générations aura-t-elle lieu cette année-ci? La réponse est non, je vous le dis tout de suite. Merci encore, merci à Thomas Beau et Guillaume Ledieu, pardon, pour la réalisation. Et bien sûr à Laurence Genepin pour la préparation, la documentation. Venez nous retrouver sur notre site, tous les titres notamment de Serge Guérin y seront. Et sur Twitter si vous le voulez, puis donnez-nous votre avis. Tout de suite après, Création On Air.